France Culture.
À voix nue, épisode 3, l'expérience du grand restaurant. Bonjour Guy Savoy.
Bonjour.
Il y a un mot que vous avez déjà beaucoup utilisé dans nos deux précédents épisodes, c'est le mot convive, auquel vous tenez dans votre restaurant. Ce mot convive, par opposition, nous avez-vous dit, au mot client.
Ouais.
J'aimerais bien que vous développiez cette...
Le mot client me dérange un peu. Alors, j'aurais l'air idiot de dire que j'ai une méfiance du commerce. Je suis une forme de commerçant, bien évidemment. Mais je trouve que dès qu'il s'agit de table, il y a une noblesse. Et je ne peux pas dire qu'un client, ce n'est pas noble. Hein, parce que c'est celui qui nous permet de vivre. Mais dans un restaurant, je pense que le mot convive est beaucoup plus adapté. Un convive, ça, tout de suite, on pense à la table. Alors qu'un client ne pense pas forcément à la table. C'est pour ça que, ici, nos clients, on les appelle des convives. Voilà. Ça colle plus. On a la chance d'avoir en France un vocabulaire qui, pour chaque situation, on a des mots. Je reprendrai les mots de Frédéric Dard, quand il écrit l'apothéose du goût. Il dit que la langue française est trop pauvre en superlatifs. Moi, je n'ai pas cette impression, mais on a suffisamment de vocabulaire par rapport aux anglo-saxons pour adapter certains mots à certaines situations.
Ouais. Alors, un lieu où on reçoit des convives, une scène, vous utiliseriez ce terme de scène restaurant ?
Alors, qu'est-ce qu'on a de théâtral ? Bon, unité de temps, de lieu et d'action. Hein, on est dans un lieu, il y a une action dans un temps donné, on est... Dans votre métier, on dirait on est en direct. Voilà, donc on est en direct. Et je dirais que c'est un direct sportif. Pourquoi un direct sportif ? Parce qu'on a les règles. Les règles, c'est notre métier. Quand je dis ou nos métiers. Parce que dans une maison, comme la nôtre, il y a plusieurs métiers. Depuis le voiturier, l'accueil, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, les commis, les pâtissiers, les cuisiniers, les plongeurs. Enfin, il y a une multitude... une diversité de métiers et de savoir-faire qui est quand même assez... comme au théâtre. Au théâtre, bien sûr, il y a les acteurs. Il y a, voilà, les acteurs seraient les convives. Et puis, nous, on est là pour diriger les maîtres d'hôtel, les sommeliers, pour les mettre en scène. Et puis, nous, on est les machinistes, quoi. Enfin, on essaye de tout faire pour que tout se passe bien.
Dans un temps donné, parce que c'est un rythme aussi. Vous proposez, par exemple, un grand menu en 13 temps dans votre restaurant.
13 temps, il faut... Bon, je dirais, jusqu'au dessert, il faut 2 heures. Après, ça dépend si les convives ont envie de terminer rapidement ou pas. Mais bon, en gros, il faut compter, oui. Il faut compter 3 heures. Mais on est loin des 5h30 de Saint-François d'Assise. Hein. Donc... 3 heures, mais c'est encore une fois, c'est 3 heures de bien-être. Pourquoi de bien-être ? Parce que tout est mis en œuvre. On fait au-delà
des... Oui, vous dites souvent que le restaurant, ça commence avant l'assiette. C'est avant la cuisine, c'est l'accueil, c'est le sourire.
C'est l'accueil, moi c'est pour ça que je suis dans l'entrée et que j'accueille tous les convives. Mais déjà, ils ont eu affaire aux voituriers en bas. Même si vous n'avez pas de voiture... Ça va être le premier sourire de la maison. Moi, comme on a une entrée qu'on ne peut pas matérialiser par des enseignes, je mets toujours une cuisinière ou un cuisinier en tenue à l'extérieur pour justement matérialiser cette entrée. Donc oui, il y a une préparation, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans un magasin. Voilà. Et en plus, on a la chance dans ce bâtiment d'avoir cet escalier monumental qui est quand même avec ce tapis rouge, tout ça, et vous arrivez à hauteur...
La moyenne de Paris, hein, en l'occurrence.
Oui, 11 quai de Conti. Vous arrivez, la porte s'ouvre toute seule. Quand vous arrivez à 7-8 mètres de la porte s'ouvre. Voilà. Vous passez du 18e siècle, puisque le bâtiment date de 1775, et vous entrez dans un univers, c'est la spécialité de Jean-Michel Vimotte, un univers greffé. C'est-à-dire, sur ce 17e siècle, on a greffé la modernité. Et vous le sentez dès que vous passez la porte. C'est un autre univers. Et là, bon, on vous conduit à votre table, vous apercevez qu'au-delà de la vue que vous avez sur l'extérieur, qui est quand même unique, vous identifiez Paris tout de suite. Vous avez le Louvre, vous avez la Seine, vous avez le Pont des Arts, le Pont Neuf, l'Institut, enfin, la Samaritaine en face. Et tout de suite, vous êtes dans un lieu d'histoire.
Mais vous voulez dire, Guy Savoy, que tout compte, mais y compris le décor extérieur.
Mais bien sûr.
Quand on entre, je dis le restaurant comme une scène, c'est aussi bien la vue que vous offrez à vos convives.
Bien sûr.
Que ce qu'il y a dans l'assiette au final.
Et puis la vue qu'il y a dans la salle de restaurant. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'œuvres de la collection de François Pinault, qu'il y a, enfin, toute la table est
tout
habillée.
Tout est une mise en scène.
Toute la table est habillée de pièces d'artistes. C'est important, il faut que la maison, en fait, soit en cohérence avec son... Il y a un mot qui a peut-être pas beaucoup de noblesse, mais qui est tellement parlant, c'est le mot de taulier. Vous savez, le taulier, c'est celui qui mène son affaire, quoi. C'est-à-dire qu'il est... Son rôle, en fait, c'est de voir ce que les autres ne voient pas.
Vous êtes un taulier ?
Ah oui, j'assume.
Vous êtes là tous les jours ?
Oui, je suis là tous les jours. J'arrive le matin à 9h15 et voilà.
Jusqu'au dernier service du soir ?
Je suis là tous les jours, oui, jusqu'au dernier service du soir, absolument.
Vous accueillez vos convives, j'allais dire clients. Vous aimez échanger avec les clients
sûr,
qui viennent ?
Bien sûr, mais ça pas. Vous savez, un restaurant, c'est une université. Hein. On apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend. On apprend, encore une fois, de ses fournisseurs, c'est-à-dire tous ces artisans de la terre et de la mer, que j'appelle, moi, mes partenaires. On apprend de toute cette jeunesse, hein, la jeunesse des équipes, que ce soit en salle ou en cuisine, avec des cultures différentes, parce que moi, j'ai la chance d'avoir, je crois qu'en permanence, on a entre 12 et 15 nationalités parmi les équipes, donc avec des cultures différentes.
C'est vous qui choisissez, ça ?
Ça s'est fait naturellement. C'est un jour, au concert du monde, qui me dit « Mais combien avez-vous de nationalités chez vous ?» Ben, j'ai dit « C'était rue Troyon, donc je ne sais pas, 3 ou 4. » Et après, je m'aperçois, le soir, je compte vraiment, et je m'aperçois qu'on en avait 12. Ce qui avait donné un article après, dans Le Monde, ce titre « Le Monde à l'école Guy Savoy ». J'avais trouvé ce titre formidable. Et voilà, et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est toujours à peu près entre 12 et 15 nationalités différentes.
Vous dirigez une équipe d'environ 60 personnes
oui,
aujourd'hui, c'est ça ?
Avec tous les apprentis et stagiaires, oui, c'est 60, 62 personnes, absolument. Absolument. Mais, et vous employez le mot équipe parce que j'y tiens.
Plutôt brigade, vous voulez dire ?
Oui, brigade, bon...
C'est votre côté rugby, ça ?
Oui, bien sûr, c'est moi. On va faire une parenthèse sur le rugby parce que vous allez voir que c'est très important. Moi, je me suis inscrit à l'école de rugby à Bourgoin-Jallieu, j'avais 11 ans. Et qu'est-ce que j'ai appris à l'école de rugby ? J'ai appris qu'en équipe, on est plus fort. Oui, on est 15, bon, plus un peu plus, 23 avec les remplaçants. Et je me suis surtout aperçu que c'est avec des personnes très différentes, autant physiquement qu'en personnalité, qu'on fait une équipe cohérente. Le paradoxe, il est incroyable. Il nous faut des gens très, très, très différents pour faire une équipe homogène. Vous dites, mais il déconne. Ben non. Et là, c'est là aussi que je m'aperçois que même si on est tous dans le même... Enfin, plus ou moins dans le même métier. En cuisine, par exemple, je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le poisson qu'avec la viande. Plus à l'aise avec les entrées froides qu'avec le chaud. Et après, c'est à moi... Enfin, je sors de mon rôle de capitaine, entraîneur, entraînant, et je deviens sélectionneur. C'est-à-dire qu'il faut que je sache comment chacune de ces personnalités tellement différentes vont parfaitement s'épanouir parce que je vais, ou on va les aider avec les différents seconds, comment on va les aider à s'épanouir en décelant chez eux les qualités ou les capacités qu'ils n'ont peut-être pas eux-mêmes décelées. C'est pour ça que moi, 2 fois par an, j'y tiens, je fais un entretien avec chacun des coéquipiers pour essayer de leur faire dire des choses. Et je m'aperçois très souvent, j'aime faire un grand coup de frime, ils disent les choses que j'avais senties. Quoi. Donc, mais ça, c'est possible parce que je suis le capitaine entraîneur. Donc, tout se passe sur le même lieu ici. La fabrication, le service commercial, enfin, rien n'est dispersé chez nous.
J'ai toujours fait en sorte que les conditions de travail s'améliorent
proportionnellement au fonctionnement des maisons. Donc voilà. Et quand il y a maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, j'ai pris la décision de fermer 3 jours par semaine. C'était dans cet esprit de continuité, toujours, cette avancée. Bon. En intégrant peut-être plus aujourd'hui, alors c'est très égoïste ce que je vais vous dire, mon confort personnel.
Il vous appelle monsieur,
oui.
Il ne vous appelle pas chef ou capitaine?
Non, capitaine,
c'est
non,
c'est une
chef
culture aussi que...
J'aime pas le mot chef, moi. J'ai pas, je sais bien que c'est traditionnel dans notre métier, mais j'ai du mal avec ce mot parce que c'est... Comment vous dire? Je sais pas, j'ai pas de... Il n'a d'intéressant que si vous y rajoutez quelque chose. Bon, chef d'orchestre, oui, d'accord. Si vous dites, vous dites jamais un chef d'orchestre, chef. C'est le chef d'orchestre. Cuisine, j'ai du mal, c'est... Pour moi, c'est la traduction d'un petit chef, d'un chef ailleurs. J'en sais rien, peu importe, mais en tout cas, je suis pas du tout à l'aise avec ce mot. C'est pas par prétention, hein. C'est pas, je veux pas qu'on m'appelle monsieur parce que voilà, je commence à avoir de la bouteille ou tout ça. Non, c'est simplement, ça rentre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas de bruit.
Et si donc je... on crie pas dans votre cuisine?
Non, non, non. On s'interpelle pas, on échange, voilà. Et ça m'arrive de pousser un coup de gueule, mais très rarement, parce que je préfère prendre l'accusé directement et sans, comment vous dire, sans faire de vagues, quoi. Parce que je m'aperçois que j'ai certainement hurlé dans le passé, je m'aperçois que ça inhibe les émotifs et ça rend plus rebelles les rebelles, donc ça sert à rien. Non, puis même, c'est tellement mieux de travailler dans la courtoisie, dans des rapports humains hyper civilisés. C'est pour ça que déjà, et moi je les appelle monsieur aussi, hein. Bon, peut-être pas en cuisine. En cuisine, je les appelle souvent par leur prénom, mais en salle, je les appelle tous, même les jeunes, je les appelle monsieur.
Est-ce que chaque membre de votre équipe en cuisine, Guy Savoy, peut participer de la création d'un plat?
Bien sûr, mais moi bien sûr, ils ont tous... Enfin, à partir d'un certain niveau, ils ont tous, bien sûr, leur mot à dire. Hein, quand on décide de travailler sur des nouvelles cartes ou des nouveaux plats et tout, bien sûr. Bien sûr. Il y a une liberté d'expression. Après, moi, je reste, bon, je ne suis plus capitaine entraîneur entraînant, je suis arbitre. Voilà.
On peut tous les décliner, vos rôles. Et est-ce que le rôle du capitaine entraîneur arbitre taulier aussi, enfin du cuisinier, je vais revenir au mot de cuisinier, en dehors de procurer du plaisir, c'est aussi, et en dehors de respecter la chaîne depuis l'agriculture ou l'agriculteur jusqu'au convive, c'est aussi de montrer la voie. Vous qui parlez beaucoup des jeunes générations qui vous entourent, avec lesquelles vous travaillez, est-ce que vous évoluez, est-ce que votre cuisine évolue aussi avec le temps? Est-ce que vous devez vous adapter au temps qui est le nôtre?
Alors, je ne sais pas si c'est une forme d'adaptation. Non, c'est une forme d'évolution personnelle, ça c'est évident. Moi, je fais fi de toutes les modes. Hein. Je n'ai pas du tout, mais du tout envie d'adhérer à... Moi, je continue mon style. Et puis, je dirais la mise au point la régularité d'un plat... Le truc, c'est d'être justement au milieu de l'équipe et d'intervenir quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui dévie. Parce que tous les cuisiniers qui sont là, si vous les laissez faire 3 mois, chacun va faire la cuisine selon sa propre sensibilité, ce qui est tout à fait humain et, j'ai envie de dire, normal. C'est pour ça que le taulier intervient. Mais l'intervention, elle est de plusieurs manières. C'est-à-dire que c'est soit je remontre, c'est-à-dire techniquement, c'est-à-dire... voilà, je prends la place de la cuisinière ou du cuisinier, je dis non, j'ai déjà dit que je voulais que ce soit comme ça, donc il faut que ce soit comme ça.
Parce qu'il faut que ça reste la cuisine de l'auteur Guy Savoy?
Bien sûr, il faut que ce soit cette identité-là, parce qu'autrement, ça devient l'armée espagnole, quoi. C'est, si chacun... Et quand peut-être des personnalités un peu plus affirmées, voilà, donc là, je me permets de... leur rappeler qu'ils feront leur propre cuisine lorsqu'ils seront eux-mêmes tauliers.
Qu'est-ce qui a changé en 45 ans?
Je crois que le changement ou l'évolution aujourd'hui, parce que cette évolution, elle doit se ressentir dans tout ce qu'il y a autour de l'assiette. J'ose dire qu'il y a 45 ans, l'assiette suffisait pratiquement. Aujourd'hui, une maison qui ne met pas en place son propre esprit, enfin, si une maison ne met pas une forme de singularité dans sa manière d'être...
Elle tient pas.
Je sais pas si elle tient pas, mais ce sera plus, je pense, ce sera plus difficile.
Le menu ne change pas tous les matins, j'imagine, non, dans un restaurant non, comme le vôtre.
Non, le menu change à chaque saison. Enfin, la carte change à chaque saison. Mais au quotidien, on peut avoir, parce qu'on a la chance d'avoir des convives que l'on voit assez souvent. En fonction des arrivages du matin, on peut avoir des choses, je sais pas. Par exemple, la dorade royale, elle est pas la carte en ce moment. S'il y a une belle dorade qui est arrivée, notre fournisseur sait que s'il a des choses un peu particulières, hein, bon, il sait qu'il peut nous les mettre sans aucun problème et que nous, on aura évidemment une table à qui on pourra faire ce qu'on appelle du hors-carte. Quoi. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est, je dirais, ça aussi, ça se fait naturellement. Quoi. C'est pas, il n'y a pas besoin tous les soirs ou tous les matins de bonne heure de rappeler aux fournisseurs, tiens, si vous avez, ils le savent. Ils savent que au bout d'un certain temps, ils connaissent notre mode de fonctionnement et ils savent ce qu'ils peuvent nous faire. Par exemple, au printemps, la première cagette de morille va être pour nous parce qu'ils savent que bon, ils savent que j'aime les champignons, ils savent que j'aime les morilles et puis ils savent que voilà, je vais avoir les convives pour les déguster. Ça c'est bon, mais ça c'est, je dirais, c'est tout à fait normal.
Voilà. Un grand restaurant, Guy Savoy, n'est pas tenu de vivre avec son temps, il est immuable dans sa façon d'être, dans sa cuisine également.
Il est immuable, mais non, parce que les cartes évoluent.
Vous réinventez sans cesse.
Alors, non, mais l'évolution, elle se passe, bon, c'est vrai que moi, quand je vois, je garde pas forcément les anciens menus, d'ailleurs, mais parfois, un convive arrive avec un menu qu'il avait emmené il y a 25 ou 30 ans. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé, une carte qui... C'était au début des années 90. Et moi, j'avais été impressionné par le nombre de plats qu'il y avait sur cette carte. Je sais pas, on avait 10 entrées, 10 poissons. 10... Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça, quoi. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup...
Réduit.
Réduit, oui, recentré. Parce que, à partir du moment où vous avez 5 entrées, 4 ou 5 poissons, 4 ou 5 viandes, plus une ou deux suggestions quotidiennes, ça suffit largement pour trouver son bonheur. Après, on a le menu à 13 séquences, mais 13 séquences, il y a 3 desserts, il y a, voilà. Et puis, on puise quand même largement dans les choses qui sont à la carte. Hein. Donc, oui, c'est, l'évolution s'est trouvée là. On trouve des cartes plus petite. On assiste aussi à l'explosion des restaurants qui n'ont plus qu'un menu. Alors là, j'emploie le mot restaurant, mais il va falloir trouver une autre appellation. Parce qu'un restaurant qui n'offre qu'un menu a-t-il droit à l'appellation restaurant ? Moi, s'il y a un seul menu, c'est-à-dire que je vais chez des amis.
Ben vous parlez de votre restaurant comme d'une maison.
Non, mais...
On peut venir à la maison avec un seul menu. Alors là, absolument. C'est quand même la différence entre votre maison et le grand restaurant.
Oui. Mais là, après, le restaurant, on doit avoir une...
Le choix.
On doit avoir le choix, bien évidemment. Mais bien évidemment. Autrement, c'est autre chose. Voilà. Alors, je suis une maison-restaurant.
Certains plats, quand même, posent question. Guy Savoy, je vous titille un peu. Allez-y. La soupe d'artichaut aux truffes, c'est une soupe qu'on sert toute l'année.
Mais on sert toute l'année parce
que c'est pas toute l'année, la saison, ni de la truffe, ni de l'artichaut.
Attends, alors, là aussi, non. Là, je vais à la fois abonder dans votre sens, puis à la fois vous faire bondir. Alors déjà, la truffe, maintenant, vous savez qu'en... C'est là où je vais faire bondir. Vous savez qu'en Australie, il y a aussi la tuber melanosporum, qui correspond chez nous au mois de juin, juillet et en partie d'août. Alors on va me dire qu'il faut la transporter. Mais quand vous avez un plat, bon, comme ça, qui est incontournable, et qu'il y a des convives qui n'ont pas forcément la possibilité de venir la manger en janvier, février, mars. Ben, vous avez, voilà, je n'ai pas honte de le dire, je le dis à votre micro, une partie de l'année, la truffe que je sers est surgelée. Mais surgelée dans de bonnes conditions. Elle est surgelée dans les semaines où elle est la meilleure. Alors la surgélation altère sa consistance, mais pas du tout son goût. Il faut dire que nous, l'ingrédient principal de la soupe d'artichaut, c'est le jus de truffe. Et le jus de truffe, il est, bon, c'est une infusion de truffe. Cette infusion de truffe, elle se garde tout à fait toute l'année sans aucun problème. C'est ce qui se passe et j'ai aucune raison de le cacher.
Mais ça veut dire effectivement que certains plats sont de tels totems qu'on n'y touche pas.
Qu'on n'y touche pas, c'est évident. En revanche, bon, l'été, il y a les tomates, il y a les petits pois, il y a tout ça. Bien sûr, ça, je ne le ferai pas.
Les fraises.
Je ne le ferai jamais en hiver. En ce moment, les desserts, ça tourne autour de la poire, de la pomme, du coing, de la châtaigne. Bien sûr, et l'été, ça tourne autour de la fraise, de la framboise, de la pêche. Mais c'est évident. Et puis après, les plats, donc j'ai cité, là, on a un plat estival là, qu'on a fait cette année. Je ne sais pas si on le refera l'année prochaine. C'est une tomate qui s'éclate dans les couleurs. On reconstitue une tomate. En fait, l'idée de ce plat, c'était de retrouver le goût. Vous savez, lorsque vous faites une salade de tomates, parce que maintenant, les tomates sont bonnes l'été. Il y a différentes variétés, elles sont bonnes. Vous savez, quand on fait une bonne salade de tomates, c'était de retrouver le goût du jus qu'il y a au fond du saladier. Vous savez, ce mélange à la fois de goût de tomate avec l'huile d'olive, le sel, le poivre, très, 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 très peu de vinaigre. Et c'est ça. Donc, ce plat, c'est une adaptation de cette sensation d'avoir le fond de saladier de tomate. Le petit pois, c'est aussi d'avoir, cette fraîcheur du petit pois, quoi. C'est quelque chose de fraîcheur déjà lorsque vous le regardez, cette couleur verte. On peut pas faire plus frais que le vert. Et puis le goût, quoi, le goût de ce petit pois qu'on a l'impression qui vient d'être cueilli dans le jardin. Alors là, c'est important d'avoir des fournisseurs qui, voilà, il faut pas qu'il s'écoule 8 jours entre la récolte du petit pois et sa consommation. C'est évident que moi, je vais prendre des petits pois qui ont été cueillis hier pour être servis aujourd'hui.
Bon, j'ai fait un petit détour par la cuisine parce que nécessairement dans ce restaurant qui est une scène sociale, vous n'êtes pas seulement un entraîneur, un capitaine, un taulier, vous êtes aussi un cuisinier.
Absolument,
donc il fallait
mais
forcément qu'on parle de la cuisine et de votre façon d'envisager votre cuisine. Mais vous êtes aussi, Guy Savoie, un chef d'entreprise. Dans cette institution qui est le restaurant à la Monnaie de Paris aujourd'hui, vous dirigez une équipe et puis il y a une dimension économique et sociale de votre travail. On dit souvent qu'un restaurant gastronomique, ça n'est pas rentable. Comment vous déterminez le coût d'un repas ? En fonction de quoi ?
Moi, je ne me considère pas comme un restaurant cher. Je me considère comme un restaurant coûteux.
C'est combien un menu à 13
Il est passé à 740 euros. Mais là encore, j'ai pas de... Comment vous dire ? Vous avez du homard, vous avez du foie gras, vous avez du caviar, et en quantité. Vous avez de la truffe noire, en ce moment de la truffe blanche. Ce qui explique que le menu est passé à 740 parce qu'il y a les deux trucs. La truffe blanche... très cher. La truffe blanche, on la paye en ce moment 6 000 euros le kilo. On dit qu'on n'en met pas 100 grammes dans l'assiette. Mais bon, il y a les produits. Mais malgré les produits vraiment coûteux, encore, parce que j'aime pas le mot cher. Moi, un restaurant à 15 euros, il peut être cher. Nous, ce sont des coûts, mais des coûts réels. Et ces coûts, c'est au bilan, puisqu'on parle de rentabilité, malgré le prix des produits... Le poste le plus important au bilan est le poste salaire et charge.
C'est l'humain, vous voulez dire ?
C'est l'humain, tout simplement.
Pour payer correctement les gens qui travaillent.
Mais c'est rassurant, non, que ce soit l'humain. Ça veut dire que tout le monde gagne bien sa vie, quoi. Et il faut, et moi je tiens à ce que tout le monde gagne bien sa vie chez moi, quoi.
Mais ça veut dire quand même que ne peuvent venir dans votre restaurant, Guy Savoie, que des convives qui ont les moyens de s'offrir un repas comme ça, est-ce que vous n'avez pas de temps en temps envie d'ouvrir le restaurant ?
J'ai une annexe qui est l'atelier Maître Albert, qui est une rôtisserie, où on est 10 fois moins cher que chez nous. Donc, même plus, 10 fois, 12 fois moins cher. Il y a le même souci de qualité des produits, Mais on est dans, plutôt que ce soit du Turbo et du Omar, eh ben ça va être du Cabillaud ou du Lieu Jaune. Et
l'exceptionnel a un prix, a un coût.
A un coût.
En 2022, Guy Savoy, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le geste et la manière ». C'était après la crise du Covid de 2020. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette pandémie, dans votre façon de gérer votre restaurant et de penser le restaurant ?
Non, le traumatisme, il a été ce fameux samedi soir où à 19h, on apprend qu'à minuit, tous les restaurants devaient être fermés. Ça, c'est un vrai traumatisme. Moi, je n'ai pas honte de dire, le lundi au bureau, j'ai pleuré comme un gamin, quoi. C'est les collaboratrices du bureau qui ont essayé de me réconforter. Parce que je croyais que tout était foutu, vous imaginez, on vous a comme ça, fermé. Et puis, bon, très vite, dès le mercredi, on nous a annoncé des mesures, hein, que les salaires allaient être pris en charge à 80%. Parce que moi, je pensais à tout ça, vous imaginez, vous avez ici, parce qu'on me dit, mais pourquoi vous ne prenez pas votre retraite ? J'ai dit déjà, parce que je prends beaucoup de plaisir. Et puis j'ai 60 personnes, là. Je ne peux pas leur annoncer ce soir, la semaine prochaine ou dans deux mois, je pars à la retraite et débrouillez-vous. Alors.
Et comment avez-vous traversé cette période ?
Cette période, très mal. Je vous dis, je me suis effondré complètement parce que je pensais que tout était fichu, quoi. Et puis.
On en sort pareil ?
C'est là où je me suis aperçu, vous savez, je venais plus au récent, j'habite juste à côté là, mais bon. Je venais plus au restaurant parce que lorsque je traversais cette cuisine, j'avais l'impression de traverser un hall d'exposition, vous savez, où on voit des belles cuisines bien installées à Equipe Hôtel ou dans Dolo, au Syrah ou dans d'autres salons. Et là, c'était une torture, quoi. C'est une cuisine, enfin, c'est fait pour vivre. C'est fait pour y voir des cuisiniers, c'est pas pour voir des plats couverts de papier film pour les protéger, c'est tout ça. Et je pense que la graine de l'addiction est vraiment née à ce moment-là. C'est là où je me suis aperçu que je pouvais pas me passer de cette université. Je répète université parce que j'apprends tellement tous les jours.
Merci Guy Savoy.
Merci.
Rendez-vous pour l'épisode 4 demain. On fera rayonner la gastronomie française à vos côtés.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Guy Savoy, réalisation Franck Lilin, prise de son Florent Layani, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abdral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.